RCF.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le magazine de l'étonnement culturel. Cette semaine, une fois encore, le cœur d'effervescence balance entre cinéma et théâtre. Au cinéma, nous partagerons avec vous des clés pour entrer dans l'univers du japonais Hamaguchi. Son nouveau film, Le mal n'existe pas, sort mercredi. Et puis au théâtre, je vous propose de rencontrer Malo Lopez. Cette metteuse en scène a fondé l'Insolite Fabrique, une troupe de comédiens porteurs de handicaps mentaux. Ils viennent de faire l'objet d'un film, Amour extraordinaire, que l'on peut voir actuellement sur France Télévisions. Quand Shakespeare fait de l'inclusion, on en parle en fin d'émission. Comme chaque semaine, tout cela se fera au rythme de la bonne, voire de la très bonne musique. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Delphine Fraissinet ne sera de retour que le mois prochain. En attendant, on pense fort à elle et on salue bien bas tous les auditeurs belges. Les deux fidèles au poste cette semaine sont deux cinéphiles absolus qui veulent nous donner le goût du cinéma de Ryusuke Hamaguchi. Valérie de Marniac, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Vous êtes responsable de l'association Cygnis qui organise les prix œcuméniques dans les festivals de cinéma. On vous entend chaque mercredi matin un peu avant 9h dans la matinale RCF. Vous avez vu un film qui vous a bouleversé, je crois, c'est l'histoire de Rosalie, l'histoire d'une femme libre qui voulait qu'on l'aime telle qu'elle est, aussi barbue soit-elle. C'est donc l'histoire d'une femme à barbe. Et puis au musée de la Marine, à Paris, vous avez vu l'exposition consacrée à l'océan au cinéma. François Huguenin, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
On vous sait passionné de cinéma asiatique et on aura le temps d'en parler avec Hamaguchi, mais vous avez aussi apporté un film bien français qui revient sur la figure du père Jacques Hamel, ça s'appelle...
Que notre joie demeure de Cheyenne-Marie Caron.
Et puis comme à chaque fois, une découverte musicale et il s'agit du nouvel album d'un folk singer à la française, Bertrand Betsch. Et puis vous nous glisserez quelques mots, voire quelques notes de lecture de François Sureau. Voilà, François et Valérie sont assis bien sagement, Pierre-Henri est aux manettes derrière la glace, Effervescence peut commencer.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Dans une lettre ouverte publiée ce mardi outre-Atlantique, plus de 200 artistes américains s'inquiètent des dérives de l'intelligence artificielle. De Billie Eilish à Stevie Wonder, en passant par les héritiers de Frank Sinatra ou de Bob Marley, tous dénoncent le rapt de leur voix ou de leur talent par ces IA que l'on dit génératives. Ils appellent à mieux protéger la création et les droits des auteurs face à une menace qui peut détruire l'écosystème de la musique en répliquant notamment ses voix célèbres. L'intelligence artificielle s'infiltre désormais dans tous les domaines de la création. La chanson, donc, mais aussi la BD, la littérature, les arts plastiques ou la photo. Oui, mais une image, une chanson, une histoire créée par l'IA est par nature dépourvue de chair et de vie. À chaque fois, il n'y a ni création, ni intelligence, mais une captation, voire une compilation de données grâce à une puissance de calcul. Et le vocabulaire ne ment pas. L'IA ne crée pas, elle génère. Un copier-coller amélioré, un plagiat puissance XXL. Alors ce n'est pas la première fois que je m'interroge ici sur les pseudos avancées de l'IA. Est-ce véritablement un progrès et pour qui? Que gagnons-nous avec l'IA? Ne sommes-nous pas en train de laisser sur le bas-côté une partie de nos capacités intellectuelles? Quand on y pense, les yeux de Léonard de Vinci avaient vu tellement moins d'images que nous, les oreilles de Mozart entendu tellement moins de musique que nous. Alors, pour ne pas regarder l'IA comme les vaches regardent passer le train, pour lever les yeux de nos téléphones et entamer un début de résistance ou tout au moins tenter de penser ce qui nous arrive, les bien nommées éditions de l'Escargot nous invitent à entrer dans l'œuvre de Jacques Ellul, ce sociologue et théologien protestant mort en 1994, donc bien avant l'invention du portable et de l'IA, est le grand penseur de la technique. Un penseur inquiet qui avait tout compris avant tout le monde et qui, alors que l'heure était encore à l'euphorie, déconstruisait le mythe du progrès en posant la question de notre liberté. Car, demandait-il, les instruments techniques permettent-ils une évolution positive de l'homme ou contribuent-ils à la bloquer? L'homme moderne, disait-il, ne se pose jamais la question du prix de sa puissance. Tout ce que la technique gagne, la démocratie le perd. La raison technique est notre raison dernière. Voilà, je vous encourage donc à lire Jacques Ellul face à la puissance technologique, un livre très accessible signé Édouard V. Piely. C'est aux éditions de l'Escargot.
Tiens, allez voir.
Matsu.
Allez voir, Karamatsu.
scantava tanto.
そうですね。最近茹でるのにも使ってるからペースが速くて。じゃあ今から汲んでくるよ。
今までキャンプって言ったら敷居が高かったわけですけど、グランピングだったら都会から気軽に来れます。地下水は下の地域の湧き水になるし、この辺りのことは何でも教えてくれる。ちゃんと頼めば力にもなってくれるし。
Mercredi sort au cinéma Le mal n'existe pas, le nouveau film du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi, dont nous venons d'entendre un extrait de la bande-annonce. Alors il y a quelques semaines, dans Effervescence, nous vous parlions de Dune. On change donc là complètement d'univers. Nous sommes bien loin des grosses productions américaines, avec ici un cinéma qui revendique une forme d'artisanat, voire d'assaise, et qui nous offre un film beau, dépouillé, qui invite à la méditation tout autant qu'à une prise de conscience écologique et politique. Alors c'est un film exigeant, hein. On n'est pas ni chez Dune, ni dans une série Netflix. Un film que j'ai trouvé lent, très lent, que certains, disons-le, pourront trouver chiant, très chiant. Un film exigeant, mais un film important, car Ryusuke Hamaguchi est aujourd'hui un réalisateur reconnu, multiprimé. Et son dernier film, Drive My Car, dont nous avions parlé ici même, avait obtenu les plus prestigieuses récompenses. Alors avant de parler de ce film aux images très léchées, Le mal n'existe pas, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la figure de Ryusuke Hamaguchi. Qui est-il? Quel est son cinéma? Et pourquoi est-ce un auteur? Je crois que le terme est adapté. Auteur, un auteur important. Lequel de vous deux veut commencer? Allez, Valérie de Marniac.
Déjà, c'est un peu la nouvelle génération du cinéma japonais. Effectivement, vous l'avez dit, qu'il a obtenu un prix pour Drive My Car, mais il a même fait le grand chelem, hein, puisqu'il a obtenu le prix à Cannes, à Berlin et à Venise pour 3 de films différents. Il s'inscrit vraiment dans la longue lignée du cinéma japonais. Il a été élève d'un cinéaste précédent, Kurosawa, alors pas le grand Akira Kurosawa de Rashomon et d'Ersu Ozawa, mais Kiyoshi Kurosawa qui a compté aussi et qui compte toujours d'ailleurs, il continue à tourner et c'est un cinéma extrêmement créatif, en tout cas novateur et lui, je trouve que Hamaguchi réussit à la fois à s'inscrire dans les plus grands. Là, il vient de sortir sa liste de films référence sur le site La Cinéthèque, que je vous recommande, hein, un site de VOD, mais qui voilà. Et donc c'est une liste très éclectique, hein, qui s'inscrit dans le cinéma européen, dans le cinéma américain. Donc il y a vraiment une espèce de transmission et en même temps, voilà, des innovations majeures avec son cinéma des choses qu'on n'a jamais vues avant.
Alors François Huguenin, comment est-ce qu'on peut présenter le cinéma d'Hamaguchi?
Eh bien, alors. Moi, je trouve qu'il est quand même très... Enfin, bien sûr, il est très japonais et ça se sent beaucoup. On pourrait dire que parfois, le côté contemplatif d'Hamaguchi peut éventuellement faire penser un peu à Ozu. Mais moi, je trouve qu'il est très européen aussi dans ses influences. C'est un cinéaste de la parole. Très bizarrement. Le théâtre est très important pour lui. Drive My Car était un grand film sur la parole, mais pas seulement un film comme Passion ou comme Senses, c'était des films sur la parole. Et du coup, on pense beaucoup à Romère quand on parle de parole, c'est-à-dire comment le verbe au cinéma peut se dire et se montrer. Et à Bergman, je pense qu'effectivement, c'est peut-être l'héritier de Bergman aujourd'hui, avec les passions humaines montrées dans toute leur force, mais avec cette espèce de pas de détachement, mais de recul qu'il faut avoir pour que ça soit du grand cinéma.
Madame Marniac.
Oui, et puis c'est aussi, il a réussi à nous étonner à chaque film et à se renouveler à chaque film, parce que effectivement, c'est le cinéaste de la parole, mais surtout c'était le cinéaste du temps long. C'est-à-dire que tous ses premiers films duraient entre 5 heures, Senses. Alors du coup, il est même sorti en deux films de 2 heures et demie. Senses durait, voilà, était en 4 parties assez longues. Drive My Car durait 3 heures. Il a commencé avec Conte du hasard à complètement prendre le contre-pied, puisque c'était là pour le coup 3 courts, enfin moyens métrages, on va dire. Donc là, tout d'un coup, il nous a montré qu'il savait aussi faire du cours. Et puis alors là, ce film, on va en parler, mais justement, on n'est plus du tout dans la parole.
Non. Donc, non, c'est incroyable.
Même s'il y a une partie qui revient, mais toute la première partie du film est extrêmement silencieuse. Et en même temps, on le reconnaît.
この土地のことを何も知らないんだなっていうことが身に染みて分かって、
グランピング場の予定地、あそこは鹿の通り道なんだ。
都会の人が野生の動物と近くで触れ合えることってないし。
銃声。
Mercredi sort donc au cinéma « Le mal n'existe pas » de Ryusuke Hamaguchi. C'est un titre énigmatique, tout autant que le film, même si, je trouve, il est tout à fait possible de raconter l'histoire. Alors, est-ce que vous pouvez... qu'est-ce qui se prête, François?
Il y a deux histoires qui s'entremêlent. Il y a une histoire, je dirais, politique et sociale. Dans un village pas loin de Tokyo arrivent des gens de la ville qui veulent monter un concept inédit de camping glamour qu'ils appellent le glamping. C'est assez drôle d'ailleurs, il y a de l'humour dans ce film. Et évidemment, à la consternation complète des villageois, parce que ça s'annonce comme un désastre absolu d'un point de vue écologique et pas que. Et à l'intérieur de cette histoire sociale et politique, il y a une histoire, plus intime, d'un père et sa fille. Le père s'appelle Takumi et sa fille s'appelle Anna. Lui est une sorte d'homme à tout faire du village, qu'on suit silencieusement dans ses travaux, et notamment d'aller recueillir de l'eau de source pour apporter à une femme qui cuisine avec de l'eau de source. Le désastre écologique va pas arranger tout ça. Et cette petite fille qui se promène un peu naturellement dans cette nature magnifiquement filmée par Hamaguchi. Voilà. J'ai bien résumé, Valérie?
Valérie, c'est la confrontation entre deux mondes?
Oui, alors c'est complètement ça. Donc, d'ailleurs, ça se matérialise dans le film vraiment presque par deux parties, c'est-à-dire qu'il y a toute une première partie qui est ce rapport de l'homme à la nature qui est sublime, vraiment magnifiquement filmé, où on voit vraiment ce père dans des gestes quotidiens, répétitifs, de couper son bois, d'aller chercher de l'eau à la source. Et il y a quelque chose d'assez... la musique a une place énorme là-dedans. Et d'ailleurs, la compositrice qui s'appelle... Eiko Ishibashi travaille avec Hamaguchi depuis plusieurs films. On est vraiment en harmonie totale entre la nature, cette musique et la vie de cet homme. Et d'ailleurs, le film commence par un très long travelling, mais qui dure plusieurs minutes, ce qui vraiment donne une sensation de longueur. On n'est pas loin de 5 minutes, je pense, vers le ciel. Donc, la caméra filme le ciel. Et entre nous, spectateurs, et le ciel, il y a juste toute une forêt, donc des arbres, qui sont à la fois, pour certains, nus, donc on est plutôt en hiver, d'autres avec du feuillage. Et il y a cet enchevêtrement de branches qui est assez... Moi, je trouve qu'il résonne bien avec la musique. C'est un peu comme si on devait déchiffrer une partition, déchiffrer la nature. Et ce rythme lent, moi, je trouve qu'il n'est pas du tout ennuyeux. Au contraire, nous met petit à petit dans cette posture d'apprendre à regarder, quoi, d'apprendre à observer ce qui nous entoure. Et dans ce cadre-là d'harmonie, assez harmonieux, mais où on sent dès le départ qu'il y a des petites choses qui clochent quand même, et je pense qu'on va y venir, c'est vraiment tout le propos du film, c'est des petits dérèglements successifs qui vont finir, alors là, effectivement, dans un final assez mystérieux. Vous l'avez dit, le titre est mystérieux. Beaucoup de scènes sont mystérieuses. La petite fille, Anna, elle arrive comme ça. On la voit de temps en temps, des scènes qui arrivent, qui semblent complètement déconnectées du reste de l'histoire. On ne sait pas très bien pourquoi cette scène arrive. Et on la voit surtout dans des scènes où elle est seule et où elle part un peu à la découverte du monde qui l'entoure. On la voit un moment dans différents lieux du village. Ça a été tourné près de Tokyo, ça a été tourné dans le village justement où habite la compositrice. Et voilà. Et en même temps, petit à petit, beaucoup de choses se mettent en place et tout est lié.
Il y a une histoire de transmission entre le père et la fille, et puis entre ces gens qui résistent et ceux qui arrivent. Bah,
alors, enfin, c'est là, là, on en vient tout, peut-être tout de suite à l'énigme pour moi du titre. Le mal n'existe pas. Je m'interroge toujours après deux visions de ce film de savoir si c'est un titre ou un anti-titre de la part d'Amaguchi, parce que ce qui est extrêmement frappant pour le spectateur, et c'est pour ça que je trouve comme Valérie que la lenteur du début du film est fondamentale, c'est que on rentre dans la contemplation de la nature, et donc, au-delà des paroles qui sont échangées par rapport à ce projet de complexe de glamping totalement...
Et avec le problème au cœur de ce projet de camping glamour, c'est la question de la fosse sceptique.
La question de la fosse sceptique
et qui va polluer l'eau. Et donc l'évacuation des rejets.
Voilà, qui va être un désastre écologique pour le village. Mais si on n'avait pas cette partie contemplative au début... On pourrait avoir la sensation qu'on a un peu un bavardage de réunion où des gens essayent de vendre leur concept et où les villageois résistent. Mais là, on a véritablement le sentiment, enfin, on sent, parce qu'on l'a vu, l'opposition absolue entre ces deux mondes. Voilà. Alors, est-ce que le mal existe ou est-ce qu'il n'existe pas? C'est difficile à dire. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez curieux dans ce film, je ne veux pas dire raconter toute l'histoire, mais c'est que ce couple d'agences artistiques qui présente ce projet de glamping, d'ailleurs, que la société qui le pilote n'a pas le courage elle-même de présenter, toute chose qui pourrait nous faire penser à des choses connues serait tout à fait fortuite, évidemment. Ce couple, au fond, sont pas des gens méchants, sont pas des, en fait
ils vont se transformer,
ils aiment, et oui, ils aiment les villageois, ils se transforment à leur contact.
C'est évidemment une piste pour revenir au titre. Déjà, il faut savoir que le titre, donc en anglais, c'est Evil Does Not Exist, et en fait ça apparaît sur l'écran en mots séparés. Donc ce qui apparaît d'abord, c'est Evil, le diable, existe, does exist, donc le mal existe, et le dernier mot qui apparaît, c'est not, qui est dans une autre couleur. Donc évidemment, c'est une mise sous tension de existe-t-il ou n'existe-t-il pas. Et ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ils veulent tous faire le bien. C'est-à-dire, si on prend chaque personnage, et d'ailleurs, le cinéaste ne les condamne pas du tout, ne les juge pas du tout. Il y a beaucoup de bienveillance dans chacun, et notamment dans la discussion. Ça, c'est vraiment le cœur du film, qui est effectivement la société organisatrice, là, les agents territoriaux viennent présenter le projet de camping. Il y a un contraste qui est très drôle entre leur discours, et là on revient au cinéma de Damaguchi, de la parole, leur discours qui est une espèce de logorée complètement abscon, formatée, c'est très drôle parce qu'en gros c'est vide de sens, et en face l'argumentation des villageois qui est extrêmement posée, pondérée et intelligente. Voilà.
Allez, chacun un conseil pour entrer dans ce cinéma qui n'est quand même pas un des cinémas les plus faciles, même si on vous l'entend, il est vraiment très riche, très beau, et on en prend plein les mirettes.
Je pense qu'Amaguchi nous y aide. Il faut vraiment commencer à s'asseoir dans son fauteuil de cinéma et à se laisser envahir par la beauté des images et de la musique, la beauté du son et de l'image, par cette nature, et je suis persuadé que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices d'RCF vont être touchés. Et après, du coup, on rentre. Et puis on rentre comme on peut.
Valérie ?
Pas essayer de trop cérébraliser, je pense.
Non, c'est un cinéma très immersif. Donc vraiment, qui doit évidemment se voir au cinéma sur grand écran. Et puis le film ne dure qu'1h40.
Voilà. Donc tout est possible. La musique, la bande originale du film n'est pas encore sortie. On l'attend parce qu'elle est vraiment très belle. Oui. Donc je vous propose un petit clin d'œil pour terminer cette séquence consacrée au cinéma d'Amaguchi. Je vous propose d'écouter Juliette Armanet. C'était en 2018. Pour la sortie du film Azzaro 1 et 2, c'était une histoire d'amour et de double, eh bien, elle avait enregistré son tube à la folie en japonais qui apparaissait dans la bande-annonce. Voilà, Juliette Armanet en japonais, je vous l'avais promis. Et c'est Asako, hein, on l'entend dans la bande d'annonce du film Asako 1 et 2.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Et on reste au cinéma avec deux films hein, qui sont en train de sortir. Le premier, c'est l'histoire d'une femme à barbe. On est bien loin de la parade des monstres, mais bien dans l'aventure d'une femme libre.
Mon père a essayé tous les remèdes quand j'étais petite.
Vous êtes née comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux.
Monstrueux.
C'est ça ta dot. Et le reste?
J'ai besoin encore un peu de temps.
Quel temps? Il n'y en a plus du temps.
J'espère juste que vous soyez différent.
Et moi que vous soyez comme les autres.
La dernière fois, vous me demandiez si c'est un vrai phénomène de foire. Une femme à barbe, ça sent bien. Suffirait que je laisse pousser la mienne.
Qu'est-ce qui vous a pris?
Comment vous allez faire avec vos têtes? Ça fait venir les clients.
Ne faites pas ça. Ils vont vous humilier.
Vous êtes belle, Rosalie.
Je vous fais pas trop honte.
Voilà, Valérie, vous avez vu Rosalie et je crois que vous avez été bouleversée.
Bah oui, moi j'ai été absolument... oui, subjuguée par ce film parce que je trouve que, alors c'est pas du tout déjà peut-être en introduction, c'est pas du tout le thème. On pense femme à barbe là dans le discours ambiant, savoir si c'est un homme, une femme, un transgenre, c'est pas du tout le sujet.
C'est pas un film de queer.
Pas du tout. C'est vraiment comment être femme, rester femme avec. Voilà, une pilosité plus importante. Donc, elle est effectivement, c'est un dérèglement hormonal. Elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle l'hirsutisme. Et d'ailleurs, pour le scénario, Stéphanie Di Giusto s'est inspirée d'une femme célèbre hein, qui s'appelle Clémentine Delay, voilà, qui a existé au début du XXe siècle et qui
Pénélope a. Pénélope Aju en parle dans ses culottés.
Ah ben voilà. Voilà. Et qui a refusé de devenir l'animal de foire, que la bête de foire, voilà, que évidemment tout le monde lui proposait de venir à coup de chèques et de beaucoup d'argent. Et donc, c'est vraiment comment rester une femme libre, comment s'accepter et s'aimer malgré cette différence. Donc, c'est vraiment beaucoup plus sur un éloge de la différence, un récit d'émancipation, de libération. Le film, alors... et d'une certaine manière, bon, il m'a plus fait penser au règne animal. C'est-à-dire que c'est pas savoir si c'est un homme ou une femme, c'est savoir si c'est une femme ou un monstre, en fait, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le point clé du film. C'est un film très, très esthétique. Hein. C'est tourné, donc, ça se passe au XIXe siècle. Elle a trouvé un lieu magnifique, d'ailleurs, qui existe.
C'est
en Bretagne. Ça s'appelle les Forges de Salles. Ça a été préservé. Ça se visite hein, aujourd'hui. C'était vraiment un lieu, un village entier qui vivait, comme dans le film, autour d'une usine hein, de forges. Et donc c'est Benjamin Biolay qui joue le rôle du maître et de lieu. Donc c'est vraiment une société de caste. Et donc cette Rosalie, effectivement, est mariée au début du film par son père, contre une dot évidemment, à un cafetier sans le sou, qui est joué par
Benoît Magimel.
Benoît Magimel, voilà. Donc c'est vraiment un beau film sur le désir. Hein, sur le désir masculin, féminin, comment il passe par les corps, comment effectivement... alors la réalisatrice dit, j'ai voulu écrire une histoire d'amour absolu, un amour sans condition. Donc moi, je suis vraiment rentrée dans l'histoire. C'est vrai que, bon, évidemment, il faut s'habituer. Le regard, de même que eux deux s'apprivoisent progressivement, notamment lui qui au départ est très en colère parce qu'on lui a caché le secret.
Il y a un vice caché.
Voilà, exactement. Donc il faut qu'il s'y fasse aussi un petit peu. Et puis c'est aussi toute la violence engendrée par la différence, c'est-à-dire comment les villageois vont accepter cette femme. Elle va devenir, c'est une femme forte, hein, donc elle va devenir un peu la tenancière du bar. Au départ, tout le monde va trouver ça très amusant. Et puis après, bon, voilà, je raconte pas tout le film. Il y a beaucoup de parallèles aussi avec la nature. Enfin, les animaux, parce que effectivement, ça commence par une chasse à cours, évidemment très métaphorique, hein, avec un cerf majestueux traqué par une meute de chiens. Voilà, donc c'est...
Ça vous a plu? Ça s'appelle Rosalie, voilà. Et la réalisatrice, on va redonner son nom.
Oui, Stéphanie Di Giusto, c'est son deuxième long métrage après La danseuse sur Loïc Fuller, qui était absolument magnifique aussi, donc à suivre.
Alors au cinéma, il y a les très grosses productions comme Dune, les films attendus comme Le mal n'existe pas, des films qui parient sur leur tête d'affiche et puis des films qui bénéficient de relais et de promotions et de distributions importantes. Et puis il y en a d'autres qui défendent une autre façon de faire du cinéma en totale indépendance et en totale autonomie. Et c'est ça ce qui se passe, je crois, avec la réalisatrice Cheyenne Caron, François Huguenin.
Oui, Cheyenne Marie Caron qui est tombée dans... dans le cinéma quand elle était petite avec son père adoptif. C'est une fille de l'assistance publique. Ça a d'ailleurs été le thème d'un de ses films, La fille publique. Elle est tombée dans Romère, dans Piala. Elle a décidé à 18 ans de faire du cinéma. Et on la connaît, je crois, assez bien chez nos auditeurs pour son film L'Apôtre en 2014, qui parlait notamment de la conversion d'un musulman. Et d'autres films, Batterie, La morsure des dieux, etc. Et elle sort le 24 avril en salle, mais il y a plein de lieux où il y a des avant-premières. Il faut aller sur son site, tout est répertorié. Un film qui s'appelle Que notre joie demeure, sur l'assassinat du père Hamel.
Ah bon, vous êtes curé, vous. Il n'y a que les curés qui portent des croix de nos jours.
Je suis prêtre, en effet. Je m'appelle Jacques.
C'est Voltaire, les Lumières.
Garde ton livre. Je serai jamais comme toi. J'ai honte de toi, honte de ta génération. Honte du fait que vous avez quitté votre pays.
Ah, parce que toi, tu t'y connais beaucoup. T'as lu 3 pages du Coran, ça y est, tu te prends pour je sais pas qui.
Et où l'on se trouve de prendre soin du monde pour le rendre plus chaleureux, plus fraternel et plus humain.
À genoux, je t'ai dit. Bouge pas, bouge pas, à genoux.
Voilà, Que notre joie demeure, sur l'assassinat du père Jacques Hamel.
Alors, il y a deux parties dans ce film. Il y a une partie, à mon sens, volontairement assez longue pour planter le décor. Il n'y a que des acteurs amateurs dans ce film. La première partie est très bressonienne, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de jeu d'acteurs. On voit le père Hamel dans son quotidien de prêtre, accueillant vis-à-vis des homosexuels, des musulmans. Un prêtre qui paye pas de mine et dont personne ne peut imaginer qu'il va devenir, hélas pour lui, célèbre par ce qui lui est arrivé. Et puis il y a la deuxième partie du film qui va monter vers ce moment de la scène finale de l'assassinat que Cheyenne-Marie Caron filme avec une droiture morale et cinématographique absolue. Il n'y a aucune complaisance. Et d'ailleurs, c'est un film où il n'y a pas de complaisance. C'est un film qui n'est pas un film à message. C'est un film qui est pour le dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Enfin, c'est vraiment un film très droit, mais qui montre quelque chose qui a été quand même absolument terrible et qui a bouleversé beaucoup, beaucoup de Français. Alors, ce film est fait avec les moyens du bord, comme toujours chez
Yann Marie Garon. C'est un artisanat.
Voilà. C'est quand même absolument invraisemblable, je vais quand même pousser un coup de gueule, que le CNC ne finance jamais les films de chez Yann Marie Garon. Sans doute le CNC a-t-il peur d'être anticonformiste pour de vrai. C'est étrange, mais pourtant, chez Yann Marie Garon n'est pas une dangereuse extrémiste. Elle est extrême, elle est radicale dans son cinéma. Ce qui est tout à fait autre chose. Et donc, elle fait tout et elle distribue elle-même son film. Et je pense, je fais le pari que ce film sera suivi par les spectateurs parce qu'il est vraiment sur un sujet absolument majeur. Quand même, l'assassinat du père Hamel nous met en face de quelque chose qui est terrible dans notre société, qui est le péril de l'islamisme fanatique. C'est un film qui n'instrumentalise pas cette histoire et qui fait du vrai cinéma, du grand cinéma. Voilà, je tiens à le dire, c'est une grande réalisatrice. Et il faut absolument l'encourager en allant voir son film.
Voilà, Que notre joie demeure, voilà. De Cheyenne-Marie Caron. Et après ou avant, pour préparer ou pour compléter, je vous encourage vivement à écouter sur rcf.fr l'interview de Rosine Hamel, la sœur du père Jacques Hamel, qui est accompagnée par Madame Kermiche, qui est la mère d'un des deux assassins. Et elles répondent ensemble aux questions de Philippe Lansac. C'est tout à fait bouleversant.
I gave my heart to you last winter. It was gone with the first sign of spring. I said a prayer for you, it's unlike me. But the time we spent, I still a man. To sing of joy and love, but all I know is regret. I long to sing of happiness, but I am never content. I gave it all to me. I gave it all to me. Showed you all of me, but you chose what you wanted to see. Next time there's no cards up my sleeve, no regrets when I lay down to sleep. I long to sing of love and joy, but all I know is regret. I long to sing of happiness, but
c'est beau, hein? Ça s'appelle Next Spring. C'est un morceau de la chanteuse britannique Bowie.
Effervescence. La culture nous unit sur RCF.
En septembre, nous avions consacré une émission à la réouverture du musée de la Marine. Une réouverture qui nous avait laissé un peu sur notre faim. Et nous nous étions dit qu'il faudrait attendre la mise en place de grandes expositions. Et c'est chose faite avec Objectif Mer, l'océan filmé qui se poursuit encore quelques semaines et que vous avez pu visiter, Valérie de Marignac. Allez, on se met dans l'ambiance. Bon, je vais vous faire une confidence, j'ai détesté Le Grand Bleu quand il est sorti. J'étais une toute jeune fille, mais je ne voulais pas être la génération Grand Bleu, celle qui se met la tête dans le lavabo. Mais vous, Valérie, vous aviez la tête dans le lavabo et vous faisiez des concours d'apnée.
À fond. Et alors justement, moi qui suis en plein dans la génération Grand Bleu, c'est ma seule déception de l'exposition, c'est qu'il n'est pas dans l'exposition.
Non, c'est pas vrai.
Donc voilà, bon. Ça veut dire qu'il n'est pas resté à la postérité. Mais il y a plein d'autres films passionnants. L'exposition, alors vous l'avez dit, effectivement, s'il y a une raison pour aller voir le musée de la Marine qui a ouvert en novembre, c'est l'exposition. Et pas n'importe quelle exposition, une exposition de cinéma. Moi, je trouve ça vraiment intéressant que de plus en plus de grands musées et de consacrent des expositions au cinéma. Le musée d'Orsay l'a fait il y a 2 ans avec Enfin de cinéma. Avant, c'était voilà, souvent des petits extraits dans un coin, une vague petite image d'Archivina. Et maintenant, c'est sur grand écran, donc c'est extrêmement spectaculaire, c'est très immersif, on est à la fois, alors là on est vraiment plongé au sens propre, sous l'eau et sur l'eau, et c'est surtout un voyage d'aventure, quoi. La mer, c'est vraiment de l'aventure. Donc, alors à quoi elle ressemble cette exposition? Déjà, quand vous arrivez, alors ça c'est permanent d'ailleurs, c'est pas l'exposition, il y a une immense vague, vraiment c'est la vague.
Mais ça c'est l'exposition permanente.
Voilà, exactement, sur un mur incurvé, bah, vous en avez peut-être déjà parlé, on est comme au cœur d'un grand rouleau qui se refermerait sur vous, donc ça c'est assez spectaculaire. Et après à l'intérieur, bon, il y a évidemment des extraits de films, des costumes, des décors, etc. Il y a surtout, alors c'est un parcours chronologique, hein, donc qui marque un peu toutes les grandes étapes du cinéma, alors, les classiques, hein, le cinéma muet, puis le cinéma en couleur, et puis c'est toujours
la mer a toujours été un décor au cinéma.
Exactement, depuis Méliès, depuis les Frères Lumière, depuis voilà. Et mais ce qui est intéressant, c'est en quoi justement d'ailleurs le cinéma forge notre imaginaire collectif et nous, je pense que c'est plus parlant pour évidemment pour des enfants, mais même pour toutes les générations, de traverser l'histoire du cinéma, enfin de la mer et de l'océan filmé au cinéma, que de voir des maquettes, des gravures sur les murs, même si c'est très intéressant. Donc le parcours reprend.
Vous allez vous mettre à dos tous les Bretons qui adorent aller regarder les maquettes.
Les maquettes, voilà. Alors les maquettes de bateaux, il y a des maquettes de décors de cinéma, de Titanic par exemple, ça c'est beaucoup plus amusant. Donc le parcours s'appuie vraiment quand même sur des grands films majeurs, évidemment. Alors pour nous, par exemple, Le Monde du Silence, hein, de Jacques Cousteau, qui a marqué à la fois Palme d'Or à Cannes, hein, premier documentaire Palme d'Or à Cannes, ben, même quasiment seul, je crois. Après, il y a aussi bon, le Titanic, Les Dents de la Mer, tous ces grands films. D'ailleurs, si je vous demandais à vous, chacun, quel est le film qui vous a le plus marqué, qui se passe voilà, sur l'eau ou au fond de la mer, ou qui vous a le plus fait rêver, le plus effrayé, c'est intéressant de se poser la question, parce que je pense que c'est...
Bah moi, je vous avais dit Le Grand Bleu, mais vous voyez,
oui,
mais en négatif. Voilà.
Donc en tout cas, là, il y a plusieurs propositions qui sont faites, même dans différents... Alors, j'ai parlé de documentaires, il y a tout l'univers des pirates, évidemment, avec ça commence avec Douglas Fairbanks, Errol Flynn, les grands studios hollywoodiens, jusqu'à l'incontournable Johnny Depp.
Et puis j'imagine aussi les Seuls au Monde, les...
Alors
les
exactement, tous les films de Robinson, des films d'animation aussi, Miyazaki, hein, la plus belle scène pour moi d'océan, c'est le Ponyo sur la falaise, la chevauchée des Valkyries sur cette immense vague. Enfin, donc il y a vraiment, c'est très très. Et à Wes Anderson avec La Vie Aquatique, avec Bill Murray qui est extrêmement drôle. Donc c'est vraiment des univers très variés, très différents qui nous. Et ça se termine. D'ailleurs, l'exposition est dédiée à Jacques Perrin, qui ça se termine sur son documentaire Océan, Océan sur un grand écran bleu. Alors moi, quand j'y étais, la caméra était en panne, donc c'était un plan bleu. Mais c'était une belle conclusion.
Pas de chance.
Une très belle exposition.
Voilà, c'est jusqu'au 5 mai, ça se passe à Paris, au Musée de la Marine, Objectif Mer, l'océan filmé. François Huguenin, vous avez lu le dernier, je crois que c'est vraiment le dernier livre de François Sureau.
Il vient de sortir.
Grand monsieur, grand défenseur des droits, de la liberté, avocat. Alors maintenant,
académicien,
voilà. Et donc, ce livre qui s'appelle S'en aller, publié dans La Blanche chez.
Voilà, S'en aller, c'est. Je pense que c'est un des plus beaux livres de François Sureau, très très personnel. François Sureau ne se livre pas toujours beaucoup. Alors là, ne croyez pas qu'il se livre à des révélations autobiographiques, c'est pas son genre, mais par son amour de personnages qui s'en vont. Et par son amour de la littérature qui imprègne ses pages, je crois qu'on peut reconstituer une sorte de portrait de cet homme énigmatique qui est à la fois quelqu'un d'extrêmement indépendant, qui au fond a été très proche des milieux de pouvoir mais qui n'a jamais voulu le pouvoir. Enfin, la complexité de l'homme est dans ce livre.
Alors, vous voulez nous lire un extrait ?
Je vais vous lire un extrait que j'aime beaucoup, sur la liberté. C'est très court. Pour un défenseur de la liberté, c'est assez amusant. La liberté est une étrange chose. Elle disparaît lorsqu'on veut en parler. On n'en parle jamais aussi bien que lorsqu'elle a disparu. Vouloir la dire, c'est vouloir retenir l'eau entre les doigts d'une main ouverte. Dans le poème qu'on connaît, Éluard n'écrit son nom qu'une seule fois, à la fin, après avoir passé en revue les circonstances de la vie courante d'abord, de l'histoire ensuite. Il ne se soucie pas de la définir. Elle est d'ailleurs la poésie même.
S'en aller. François Sureau, chez Gallimard.
Le cœur a chaviré, jeté par-dessus bord, comme du bois flotté dans l'aube carnivore. Les traits sont chiffonnés, les membres un peu rouillés. Si tu n'es pas d'accord, il faut creuser encore. Même si épuisé, et même si naufragé.
Cette voix qu'on découvre à l'instant, c'est celle d'un monsieur qui s'appelle Bertrand Betsch. Alors nous, on la découvre, moi je la découvre, peut-être que les auditeurs la connaissent, mais moi je la découvre. Pourtant, c'est pas un petit nouveau, c'est son 20e album qui vient de sortir. Ça s'appelle « Kit de survie en milieu hostile ». Cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est « Amor Fati ». En quelques mots, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps si on veut écouter un autre titre.
Amor Fati, c'est le thème du destin nietzschéen. Bertrand Betsch est quelqu'un qui a d'abord une très belle écriture au niveau des paroles, qui a un sens mélodique tout à fait remarquable, et qui jette un regard un peu désabusé sur le monde qui nous entoure, à la fois d'un point de vue social et politique, et puis aussi sur les sentiments intimes qui peuvent l'habiter. Voilà.
Alors dans cet album... Il y a des choses très variées. Puis il y a une magnifique chanson qui s'appelle « Vers la joie ».
Oui, c'est la fin de l'album. Après cette traversée parfois un peu rude, une ouverture incroyable sur la joie. Je pense que c'est profondément du Bertrand Betsch, ça.
On a tous un grain de folie ou de vice. Du sang sur les mains, un crime, un préjudice. On a tous une part d'ombre, mais moi je vois double et sous des décombres, je nage dans les eaux troubles. On a tous du plomb dans l'aile, de la rouille aux hanches, des coups de blitz, de grêle, et le corps qui calanche. On a tous un reliquat de dette et de créance, un sort, une vendetta, des failles dans les finances. Certains de l'avance, moi j'ai des aléas. Il faut saisir sa chance et aller vers la joie. Je penche et je trébuche, je suis dans de beaux draps, malgré les embûches. Aller vers la joie, on est tous de travers, on est tous en travaux, et dans le fruit le verre, on est tous sans défaut. On a le mal de l'air, et comme des trous d'eau, en nous la souricière, le pied de l'échafaud. Serions-nous damnés, sous nos pieds la terre tremble, on est un peu cramé, et rien ne nous rassemble. On a tous un pet au casque, des choses que l'on ressasse. On porte tous un masque, c'est la soupe à la grimace. Certains ont la confiance, d'autres sont aux abois. Au-delà des turbulences, il faut aller vers la joie. Bien que brimbalant, je plie mais ne romps pas, malgré les accidents, il faut aller vers la joie.
Voilà, Vers la joie, Bertrand Betch et cet album, Kit de survie en milieu hostile.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Malo Lopez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes metteuse en scène et vous dirigez une compagnie de théâtre qui s'appelle l'Insolite Fabrique. C'est une troupe qui fonctionne avec des comédiens atypiques. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Oui, effectivement, c'est une compagnie singulière, c'est une troupe permanente. Et en fait, ils sont atypiques parce qu'ils sont tous porteurs d'un handicap qu'on peut appeler handicap mental, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin d'un accompagnement au quotidien pour pouvoir évoluer. Et les handicaps, ce sont des troubles cognitifs, des syndromes génétiques, des maladies qui ont pu exister dans l'enfance et puis qui font que maintenant, la personne a besoin d'avoir une aide, une reconnaissance de travailleur handicapé.
Alors, votre travail vient de faire l'objet d'un film documentaire que l'on peut voir actuellement sur France Télévisions et qui est signé Juliette Nioret. Ça s'appelle « Roméo et Juliette, amour extraordinaire » et chaque mot est au pluriel. Hein. Dans ce film, on vous entend dire « le handicap, c'est une donnée de mise en scène ». Alors, je voudrais que vous nous expliquiez ce concept, une donnée de mise en scène.
Alors, pour moi, en fait, le handicap, j'en fais une force. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est leur fragilité. Elle me plaît, moi, cette fragilité, ce handicap, cette démarche qui peut être des fois un petit peu étonnante. Et j'en fais une force dans la mesure où ça peut m'aider à nourrir l'écriture de mon spectacle, ça peut nourrir une posture, un personnage, et ça devient pour moi une donnée de mise en scène. Dans ce spectacle, dont on voit justement un bout de chemin dans le documentaire autour de la création, je me nourris de la démarche de Nicolas, qui claudique un peu comme ça, et ça devient un peu le code de la bande dans laquelle il appartient dans l'histoire du spectacle. Et je trouve ça très fort.
Vous travaillez beaucoup à partir de leurs ressentis, de leurs émotions. On les sent, pour certains, hypersensibles. Quelles sont les précautions que vous prenez pour ne pas aller trop loin ?
Ben justement, il faut beaucoup discuter. On est beaucoup dans le dialogue quand on travaille tous ensemble. Et je suis très à l'écoute aussi, effectivement, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent. Et puis, ils sont très sensibles à tout. Et comme ils sont très généreux aussi dans ce qu'ils veulent donner, raconter, je fais attention que ça n'aille pas trop loin dans leur intimité. Et pour autant, dans ce spectacle, notamment, ils ont eu envie de dévoiler un petit peu cette intimité. On le voit bien dans le documentaire. Et voilà, c'est à moi de mesurer les choses pour que je ne les fragilise pas plus, en fait. C'est un peu difficile à exprimer. Et en même temps, quand on parle de transformation, c'est que ça les rend encore plus humains, plus vrais, mais sans pour autant les abîmer plus, quoi. Voilà, il faut faire attention à ça. Mais ils ont vraiment envie aussi, hein, de donner, d'aller chercher des choses qui sont à l'intérieur d'eux.
Votre pièce s'appelle « Dis-le en un souffle ». Ça vient d'où, ce titre ?
Alors, « Dis-le en un souffle », ça vient, c'est une histoire de souffle au départ, puisqu'en fait, dans la pièce, Roméo, donc le personnage Roméo, donc qui est joué par Melchior, en fait, Melchior, dans son histoire, a tourné dans un film, et dans ce film, à un moment donné, on lui a demandé de jouer une scène où il fallait qu'il fasse un premier baiser à une comédienne, et pour lui, c'était son vrai premier baiser, et ça a été pour lui, justement, quelque chose de très émotionnel. Et il est parti au moment de faire ce baiser, il s'est levé pendant le tournage, il est parti en courant dans le parc où il était. Et puis là, je le regardais courir, il est revenu très essoufflé, et il n'arrivait plus à parler. Et ce souffle, moi, m'a parlé parce que j'ai vu Roméo la courir et je me suis dit, il est là mon personnage, il est comme ça, il va courir Roméo sur scène. Et puis ensuite, c'est parti parce que dans cette histoire, c'est la leur bien sûr, mais c'est aussi l'histoire de Shakespeare, Roméo et Juliette. Et bien sûr, on parle d'essoufflement familial, du souffle de l'amour, du souffle de la fuite. Et je trouvais que ce titre, justement, résonnait bien avec tout ça. Et en plus, il y a aussi un accordéon dans l'histoire qui vient, des fois, apporter cette respiration qu'on peut fabriquer aussi avec cet instrument. Et puis, pour finir, c'est un titre que j'avais entendu, une réplique dans un film, le film Annette. Et je l'avais entendu en anglais, je le trouvais beau et je trouvais qu'il faisait écho avec toute la dramaturgie du spectacle, en fait, tout simplement.
Alors, vous l'avez dit, hein, c'est une pièce autour de Roméo et Juliette. Pourquoi Shakespeare ? Pourquoi Roméo et Juliette ?
C'est eux, tout simplement, qui avaient envie de parler d'amour. Ils me l'ont dit un jour, ils m'ont dit « Nous, on veut parler d'amour parce que c'est un sujet qui est difficile dans nos vies, avec lequel on a du mal, des fois, nous, on parle d'autodétermination dans notre jargon. C'est souvent le droit à l'amour, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à exprimer dans leur famille, dans leur vie. » Et ils m'ont dit peut-être qu'on va parler de cet amour empêché, de cet amour un peu impossible, des fois pour nous, qui est aussi des fois mal regardé. Comme si, parce qu'ils étaient en situation de handicap, ils n'avaient pas le droit à l'amour. Et c'est faux. Donc eux, ils ont eu envie d'en parler sur scène, puisque le plateau s'ouvrait à eux pour ça. Et je leur ai dit, ok, on va faire un spectacle qui parle d'amour, mais peut-être d'amour impossible, d'amour empêché. Et très vite, bien sûr, on a pensé à l'œuvre de Shakespeare, puisque les thèmes en fait de l'œuvre résonnaient carrément avec leurs propres histoires.
Je crois que c'est la première création où vous ne parlez pas explicitement du handicap et du regard sur le handicap. C'était une étape importante pour vous ?
C'était même une étape voulue et importante, puisque jusque-là, effectivement, on avait créé des spectacles qui viennent plutôt sensibiliser, faire changer le regard sur le handicap. Donc, on écrit au cœur de nos spectacles, vraiment. Enfin, je mettais au cœur de mes spectacles le handicap, effectivement, et j'ai eu envie d'aller plus loin et de faire vraiment un spectacle plus important, déjà par son envergure, par son dispositif technique. Et je me suis dit, c'est peut-être avec ce spectacle-là, justement, dont le handicap n'est pas le sujet, on va peut-être pouvoir aller sur les scènes professionnelles et s'inscrire dans ce réseau culturel où nous, on cherche vraiment à nous faire une place. Donc c'était mieux d'y aller avec ce genre de spectacle, tout simplement.
Alors ça ne parle pas frontalement du handicap, mais quand même, ça nous dit quelque chose du handicap ?
Oui, ça nous dit quand même quelque chose du handicap, puisque les personnes qui sont là sur scène sont porteuses d'un handicap. Donc moi, je ne veux pas le masquer, ce handicap, puisque j'expliquais justement que je m'en sers, que ça peut nourrir le spectacle. Donc il est là, le handicap. Mais pour autant, on ne vient pas parler de handicap. Mais ça reste des acteurs touchés par le handicap qui parlent, donc forcément. Mais ce que je veux, c'est qu'on les regarde d'abord comme des comédiens performants, qui ont travaillé, qui ont les codes du théâtre, qui ont le talent qu'il faut pour justement être sur cette scène à ce moment-là, avec cette équipe technique qui les accompagne. Et je veux qu'on soit vraiment pro, et je pense qu'on a réussi. Maintenant, il faut que ce spectacle plaise, comme tous les spectacles. Hein. Il plaira à certains, pas à d'autres, mais c'est pas grave. Qu'il faut, c'est que les programmateurs aussi nous laissent un petit peu cette possibilité nous fassent confiance et nous fassent une petite place sur leur scène. Ça, c'est quelque chose dont on rêve aujourd'hui.
Et ça, c'est encore compliqué. Se faire reconnaître par le monde du théâtre, ça reste compliqué quand on est une troupe de théâtre, de comédiens handicapés ?
Alors, ça a bien bougé hein, depuis quelques années, puisqu'il y a des compagnies comme nous qui existent en France et qui ont déjà bien ouvert les vannes, j'ai envie de dire, et nous tracé la route. Mais ça suffit pas, puisque je crois qu'il y a encore une méconnaissance, tout simplement, des œuvres artistiques qu'on produit. C'est juste voilà, il faut qu'on soit plus visible pour que les théâtres se disent, tiens, ils existent, il se passe des choses aussi dans le monde du handicap, faut peut-être aller voir de ce côté-là. Voilà, je pense que c'est vraiment, on n'est pas assez nombreux à le faire, et du coup, il y a une forme d'invisibilité qu'il faut vraiment casser, quoi. Donc, en tout cas, nous, on travaille pour, et les choses sont en train de bouger. Je crois que la question de l'inclusion n'a jamais été autant au cœur des enjeux sociétaux que cette année. Je trouve qu'on en parle beaucoup plus, même si nous, on milite depuis longtemps pour faire bouger les choses. Là, j'ai l'impression que ça y est, on est à un endroit où je sens que ça va bouger.
La preuve, au moment où vous nous parlez, vous êtes en train de travailler avec vos comédiens au sein d'une des plus grandes institutions théâtrales de France, le TNP à Villeurbanne.
Exactement, puisqu'en fait, nous, pour qu'on puisse aussi créer nos spectacles, il faut qu'on trouve des partenaires culturels, des scènes qui nous accueillent avec des plateaux équipés, et le TNP en fait partie. Voilà, ça fait partie de nos partenaires qui nous font confiance et nous ouvrent les portes de temps en temps et nous prêtent une salle et on peut venir répéter. Là, c'est le cas cette semaine. On est toute la semaine au TNP. Et puis, ils ont pu aussi nous compagnonner sur ce spectacle. Et il y a eu d'autres partenaires avec nous qui nous ont accompagnés et soutenus. Et ça, c'est fort et c'est important. Sans eux, on pourrait pas. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de la diversité aussi dans les théâtres. Mais voilà, il y a encore un peu à faire, mais on lâche pas.
Malo Lopez, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur le film de Juliette Nuret. Qu'est-ce qu'elle a saisi de votre travail ?
Elle est allée vraiment aussi au cœur de la création, au cœur du processus où on discute, on échange, on travaille sur les émotions, on explore, on cherche, on trouve, et puis des fois on doute, et puis et tout ça, elle a pu le filmer, et c'est fort parce que c'est la création, ça passe par plein de moments comme ça, des moments où on rit, des moments où on doute, des moments où on craque, et je crois que tout ça, elle a pu le montrer dans le film, et très bien montré d'ailleurs. Et c'est vraiment, ça reflète vraiment le boulot, quoi, tout ce qu'on fait.
Il y a une scène, enfin, il y a deux scènes qui sont, je trouve, très impressionnantes. C'est les scènes du miroir avec votre comédien Melchior qui joue Roméo, qui aime se regarder dans le miroir. Et puis un autre pour qui c'est très compliqué. Ça vous a marqué aussi ?
Oui, ça m'a marqué aussi. Et en même temps, je les connais bien. Donc effectivement, c'était drôle de voir Melchior ce Roméo, donc, qui aime son image, en fait. Il s'aime, voilà. Et moi, je trouve ça génial parce qu'il y a tellement de gens qui ne s'aiment pas. Et lui est très à l'aise avec son image. Et à l'inverse, effectivement, on voit Ambroise qui est un garçon donc autiste, lui qui a beaucoup de mal à se regarder, à exprimer aussi ce qu'il ressent. C'est comme s'il était vide en fait à l'intérieur. Il le dit lui-même. Hein. Et c'est vrai que les mettre tous les deux en parallèle, c'était assez fort à regarder. Et tous les deux, en même temps, dégagent des choses très fortes, malgré ça.
Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, vos comédiens ?
Tout simplement à être soi et à rester humain, simple, et à arrêter de se mettre des barrières et d'en faire sauter quelques-unes et de sortir un petit peu de ce monde, des fois un peu trop surfait, où en fait, il vaut mieux des fois se laisser guider par sa propre sensibilité. Et moi, ce qui m'apporte en plus de tout ça, c'est à être créative, en fait. Comme je dois aussi toujours un peu les aider pour qu'ils puissent s'accomplir sur scène, il faut que je trouve des outils tout le temps de mise en scène, des astuces, et ils me poussent tout le temps à trouver ça, à être créative. Et ça, je trouve ça bien de leur part, parce que je suis tout le temps en recherche d'idées avec eux. Je suis tout le temps dans la création, et c'est ce que j'aime, en fait. Voilà, et puis ils m'apportent aussi... beaucoup de tout simplement d'amour, beaucoup de bonheur, parce qu'on rigole beaucoup, on se marre beaucoup avec eux, ils sont sains aussi. Mais bon, après, c'est aussi beaucoup de travail, hein. Je suis très exigeante aussi dans ma direction d'acteur, et ils le savent, et c'est aussi ce qu'ils aiment, parce que je veux les emmener loin, et ils me le rendent bien quand je les vois sur scène. Moi, ils me touchent, hein, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, je me dis, waouh, j'ai eu raison de les pousser jusque-là, même s'il y a eu plein de moments où j'ai eu la trouille.
Malo Lopez, dis-le en un souffle, c'est le titre de votre pièce. En un souffle, qu'est-ce que vous auriez envie de dire avant qu'on se sépare aux auditeurs de RCF ?
Eh ben, ne lâchons pas. Laissons-leur une place sur les scènes. Et puis, je pense que le monde s'en portera beaucoup mieux.
Merci beaucoup, Malo Lopez, d'avoir accepté de nous parler de votre travail et de vos comédiens. On va se quitter en écoutant la bande-annonce du film de Juliette Niorré, Amour extraordinaire.
Là, t'es dans la... tu te souviens, là, tu cours parce que tu fuis. T'es banni, là. Roméo, il fuit. Ouais, c'est bien ça. Et après, comment il court, Roméo, quand il est dans l'amour?
Être amoureux, bah, c'est le cœur qui bat, les yeux qui pétillent.
Je suis amoureuse de quelqu'un, mais j'ai pas envie de dire ce nom parce qu'il est dans la troupe.
Oh ah.
La bande de Thibault, votre code à vous, il est parti de la démarche de Nico. Son handicap, ses pieds, sa main là, tout ça.
Tu ne me regardes jamais ?
Pourquoi tu te regardes pas dans le miroir ?
Jamais, je ne me regarde jamais.
Tu la sens comment, la mère Capulet, comme ça ?
Belle, belle, divine et craquante.
Je suis amoureux de la nature. Après, oui, c'est vrai que y a les femmes aussi. Mais c'est vrai que... je ne sais pas comment.
Il est beau.
Quand il est venu vers moi, je me suis dit c'est de bon.
J'ai eu des aventures assez dramatiques.
J'aimerais bien avoir plus d'un peu de liberté.
Non, non et non.
Réfléchis bien, c'est non, pas moi.
C'est encore fragile des fois, mais. On avance quand même drôlement bien. Mais je commence à flipper un peu parce qu'on n'a toujours pas de première date, quoi. C'est compliqué puisque le handicap fait peur.
Il n'y a que maintenant que je suis en train de me reconstruire. Et je pense que c'est grâce à Juliette.
Et voilà, c'est avec ces jeunes gens de l'insolite fabrique que nous terminons cette émission Effervescence. Je vous encourage vivement à aller sur le site de France Télévisions et à regarder ce film Amour extraordinaire. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette émission. Évidemment, Valérie de Marniac et François Huguenin et bien sûr Pierre-Henri Paget à la réalisation. Je ne vous quitte pas sans glisser dans vos oreilles une citation. Doutez que les étoiles ne soient de flammes, doutez que le soleil n'accomplisse son tour, doutez que la vérité soit menteuse, infâme, mais ne doutez jamais de mon amour. Et c'est signé William Shakespeare. Bon week-end à tous.